La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire que le satellite Pléiade pouvait voler de ses propres ailes depuis le 1er mars. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Alain Glaise, responsable du système Pléiade au Centre Spatial de Toulouse.
Allô ?
Allô, Alain ?
Oui ?
Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que signifie la recette en vol d'un satellite ?
Alors, la recette en vol d'un satellite, de système comme Pléiade, c'est quelque chose d'assez lourd et complexe. Donc, alors, sur le satellite, c'est la première fois qu'on va le découvrir en orbite. Donc, il a un fonctionnement qui, jusqu'à présent, était simulé au sol, dans un environnement simulé. Là, on va le mettre dans un environnement hostile, qui est l'espace. Et donc, on va vérifier comment il se comporte, soumis au cyclage thermique, etc., etc. On va également qualifier le fonctionnement de tous ces équipements. Donc, c'est ça qu'on appelle la recette en vol du satellite. Mais au-delà de ça, il y a toute une partie qui est le segment sol, c'est-à-dire des équipements qu'on a au sol, les stations qui vont poursuivre le satellite, les calculateurs qu'on peut avoir au sol qui vont opérer le satellite. Il est nécessaire cette fois-ci de s'assurer que tous ces équipements, tous ces calculateurs et les gens qui les opèrent fonctionnent nominalement, respectent la chronologie, ont des capacités à produire en volume les images. Donc, voilà tout ce qu'on essaie de faire marcher en 2 mois.
Quelle a été la particularité de cette recette sur le satellite Pléiade ?
La particularité, c'est que c'est le premier satellite manœuvrant avec une telle agilité en Europe. Donc, c'est une première européenne d'avoir installé des actionneurs gyroscopiques pour faire bouger en attitude, donc le faire tourner autour de son axe de rotation, faire tourner le satellite. Et donc, on a un nouveau système de contrôle d'attitude qu'il a fallu complètement recéder. Et puis, bien sûr, la qualité des images. Donc, ce sont des images qui sont excellentes, en fait, de très bonne résolution, à 70 cm. Et ça a été pour nous un réel plaisir de découvrir la qualité de ces images.
Mais il va faire quoi, maintenant, ce satellite Pléiade ?
Donc, Pléiade est en orbite, effectivement, depuis maintenant quasiment 3 mois. Donc, il a effectué plusieurs milliers de tours de la Terre et acquis également, on va dire, environ une dizaine de milliers d'images. Il va continuer à vivre en orbite, ce satellite Pléiade 1A, et puis il va acquérir des images en attendant son petit frère qui est Pléiade 1B, qui va être tiré fin 2012.
Quel est l'intérêt d'avoir un deuxième satellite dans le système Pléiade ?
Alors, Pléiade 1B par rapport à Pléiade 1A, c'est exactement le même. Par contre, il vient compléter le système puisque Pléiade est une constellation qui a été définie à 2 satellites pour amener toutes les capacités d'acquisition et les délais de revisite. Alors, par revisite, on entend la capacité à imager une image au sol, par exemple à l'équateur, tous les jours. Lorsqu'on a 2 satellites en orbite, on peut accéder à n'importe quel point sur le globe quotidiennement. Lorsqu'on a un seul satellite en orbite, il faut attendre 2 jours à certains points du globe pour pouvoir y accéder. Donc voilà ce qu'amène le deuxième satellite, c'est des capacités d'acquisition et une meilleure accessibilité.
Merci, Alain Glaise.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Cargo. 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 Éloigné de toute terre habitée, le grand large est sans doute le milieu terrestre qui ressemble le plus à l'espace. Ça n'est donc pas un hasard si le vocabulaire spatial emprunte si souvent à celui des gens de mer. Ainsi, la TV Eduardo Amaldi, qui s'apprête à quitter le port spatial de Kourou, est-il qualifié de vaisseau cargo ? Sa destination, la Station Spatiale Internationale, à laquelle il livrera quelques jours plus tard sa précieuse cargaison. De tous les engins spatiaux qualifiés de cargo, l'ATV est celui qui s'approche le plus de ses homologues maritimes. Mesurant 10 mètres de long et emportant quasiment 7 tonnes de fret pour une masse au décollage de plus de 20 tonnes, l'ATV est en effet le plus grand cargo spatial jamais lancé. En fait de cargo, l'ATV est aussi un pétrolier, ou plus exactement un ergolier. Plus de la moitié de la cargaison de l'ATV est en effet constituée de carburant spatial, grâce auquel il pourra rehausser l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Et oui, ce cargo pétrolier est aussi un remorqueur de très haute mer. En vérité, l'ATV sait tout faire. Enfin presque. Bien que conçu pour s'amarrer à un vaisseau habité, l'ATV ne peut pas encore transporter de passagers. Mais patience, un jour peut-être, tirant parti de la grande fiabilité de ses aînés, un dérivé de l'ATV sera-t-il qualifié pour transporter des astronautes ? Car comme l'a écrit Jules Verne, qui donna son nom au premier ATV, ce que des hommes ont imaginé, un jour, d'autres hommes le réaliseront. Alors, larguons les amarres du quotidien et faisons un rêve où les cargos deviennent de magnifiques trois-mâts de l'espace.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Une histoire de ballet. En 1940, Walt Disney propose à ses fans un étonnant long-métrage, Fantasia. Au fond de l'antre du sorcier, un petit apprenti qui a les traits de Mickey se coiffe du bonnet de son maître et ordonne à un ballet de porter les lourds seaux d'eau nécessaires aux expériences de sorcellerie. Malheureusement, le ballet échappe au pouvoir de son jeune maître et s'obstine à remplir sa tâche servile en même temps qu'une cuve rapidement débordante. Et lorsque l'apprenti sorcier finit par le briser en mille morceaux, ce sont autant de ballets qui poursuivent inlassablement leur ronde, jusqu'à l'intervention finale et salvatrice du vrai sorcier. La leçon est claire, gare à ceux qui se laissent bercer, berner et dépasser par des savoirs exorbitants et des pouvoirs imparfaitement contrôlés. Sans doute ne sommes-nous plus des apprentis en matière de science et de technique. Au cours du siècle passé, nous avons perdu une grande part de notre innocence au sujet de leurs possibles usages et avons tiré de sévères leçons quant à nos façons de gérer aussi bien les ressources naturelles, les déchets que les risques. Pour autant, nous continuons à croire volontiers que le génie et l'innovation technologique nous libéreront de toutes les servitudes, nous tireront de tous les faux pas. N'est-ce pas céder à l'assoupissement et aux rêves qui affaiblissent le jugement du pauvre apprenti sorcier ? Nul doute que la gestion des résidus spatiaux dont nous avons déjà parlé dans la précédente capsule, exige la mise en œuvre de nouvelles technologies. Nous avons besoin de poubelles, de balais, bref, d'outils et d'instruments pour nettoyer l'espace autour de la Terre, pour y gérer le nombre et la répartition des débris, dont l'accumulation et la prolifération pourraient menacer la sécurité des personnes et des biens en banlieue terrestre. Mais nous devons prendre garde à deux dangers. Premier danger, la prolifération. Gardons bien à l'esprit que tout engin envoyé dans l'espace, même le plus perfectionné des balais, peut lui-même devenir un débris et en créer de nouveaux. Les balais de Disney en sont la preuve. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Deuxième danger, la complaisance. Acheter un balai, un aspirateur ou une poubelle ne justifie pas une attitude indulgente à l'égard d'une gestion irresponsable des papiers gras et des chaussures sales. Installer des barrages sur les rivières, dont les crues peuvent être catastrophiques, n'excuse pas et ne doit surtout pas favoriser les permis de construire complaisamment accordés en zone inondable. De même, trouver une parade pour ramasser les débris dans l'espace ne règle pas pour autant et définitivement le risque de leur prolifération par suite de procédures et de pratiques orbitales irresponsables. Sans doute, resterons-nous pour longtemps encore des apprentis en matière spatiale ? Tant restent nombreux, les territoires à explorer, les savoirs à acquérir, les techniques à mettre au point. Nous ne devons pas moins rester attentifs, à éviter les écueils que sont le manque de vigilance et de précaution, tout comme la complaisance. L'espace n'est peut-être pas sorcier, il n'en est pas pour autant une innocente fantaisie.
Allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi.
Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.